en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Bonjour, c'est aujourd'hui au tour d'Henri Brémond de revêtir l'habit vert d'académicien français. C'était un prêtre singulier que M. Henri Brémond, soulignait André Chaumex, directeur de l'Académie lors de la réception d'André Belsor, à qui revenait l'honneur de succéder à l'historien du sentiment religieux et d'occuper à sa suite le 36e fauteuil. Si vive était son intelligence et si véhémente sa nature, que parfois l'on était saisi par son originalité, alors que son mérite véritable demeurait encore caché, reprend Chaumex. Il avait l'humeur combative des grands érudits d'autrefois, qui bataillaient sur le sens d'une phrase avec autant de zèle que si le sort d'un royaume avait été intéressé dans la dispute. On le trouvait selon les jours sarcastique et terrible, ou plein d'humour et subtil avec délice. Ancien jésuite, l'abbé Brémond avait très tôt eu l'occasion d'éprouver son caractère. Ce fils d'un notaire provençal aux opinions légitimistes, né à Aix-en-Provence en 1865, avait fait à 15 ans le choix d'entrer en religion. Mais, comme il était au noviciat de la Compagnie de Jésus, les jésuites étaient expulsés de France et le jeune Brémond contraint de partir avec son ordre pour l'Angleterre. C'est là qu'il devait se former et les années qu'il passa dans le Devonshire, à Sidmouth très précisément, puis au Pays de Galles, devaient lui permettre de se familiariser avec la littérature anglaise qu'il lisait dans le texte et sans la moindre difficulté. Rentré en France, il passa dans diverses maisons enseignantes tenues par les disciples de Saint-Ignace de Loyola, de Dôle à Moulins, en passant par Saint-Étienne et Villefranche-sur-Saône. De même, qu'il avait eu dans son adolescence, le jeune Charles Maurras pour condisciple, il devait avoir pour élève, ensuite, le futur père Teilhard de Chardin. Si, devenu adulte, les relations entre Brémond et l'apôtre de l'Action française devaient être plus que houleuses, la tradition assure que l'abbé Brémond avait tout de suite repéré l'intelligence hors du commun de Teilhard de Chardin. Collaborateur de longue date de la revue des Deux Mondes, Brémond fut aussi un critique littéraire reconnu pour la revue Études, une revue dont il devait d'ailleurs devenir le directeur en 1900 durant 3 ans. Celui qui avait été ordonné prêtre en 1892 et qui avait en 1900 prononcé ses derniers vœux ne devait cependant pas demeurer très longtemps chez les jésuites. Animé d'un tempérament assez peu conformiste, la célèbre devise « Fidelis a cadaver » devait vite se révéler trop pesante pour lui et, en 1904, l'ancien directeur des études quitte l'ordre. Suivant un parcours qui n'est pas sans rappeler celui qu'avait vécu quelques années plus tôt le jeune Ernest Renan, ce sont les voyages qui ont permis à l'abbé Brémond de prendre un peu de distance et de réfléchir à sa condition. C'est d'ailleurs lors d'un voyage à Athènes qu'il fait la connaissance de Maurice Barrès, qui devait écrire plus tard que cette rencontre au sommet s'était faite non seulement sur l'Acropole, mais juchée sur un échafaudage devant les prises du Parthénon que les archéologues s'attelaient déjà à restaurer. Cette rencontre et l'amitié qui en découlera ne seront pas sans conséquences heureuses pour l'ancien jésuite. On sait en effet que c'est Barrès qui favorisa la candidature de Brémond à l'Académie française. Épris de poésie et de littérature anglaise, c'est à la religion et à la spiritualité que Brémond consacre d'abord ses écrits. De cette époque datent des vies de Thomas More et du cardinal Newman. Mais, vers 1909, Brémond entame son grand œuvre, la rédaction de ce qui devait rester comme un monument, l'histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis les guerres de religion jusqu'à nos jours. Le défi était énorme et la méthode novatrice. Brémond n'a jamais voulu rédiger une histoire religieuse de la littérature, il s'est surtout attaché à traduire le sentiment religieux tel qu'il est palpable dans la littérature française à partir du XVIe siècle. L'ambitieux projet, s'il devait apporter la reconnaissance à son auteur, ne devait, hélas, jamais être achevé. La trop grande part que Brémond consacre au XVIe siècle, puis, durant l'étude du siècle suivant, au jansénisme, devait l'empêcher de terminer son cycle et de parvenir jusqu'à l'époque contemporaine. Qu'importe, dès sa parution, l'ouvrage fit un bruit considérable dans le Landerneau. C'est d'ailleurs cet ouvrage, ainsi probablement que son apologie de Fénelon, qui permit l'élection à l'Académie française le 19 avril 1923. Reçu un an plus tard, au fauteuil de Mgr Duchesne, par Henri Bordeaux, c'est naturellement sur l'histoire littéraire du sentiment religieux que s'attarde Bordeaux pour recevoir Brémond. Je cite Bordeaux, « Votre histoire littéraire du sentiment religieux en France est remplie de tous ces beaux conflits entre l'élan et l'ordre, l'un qui supprime la distance, l'autre qui la mesure, l'un qui découvre, l'autre qui bâtit, l'un qui fait jaillir les sources, l'autre qui les canalise et les capte en fontaine. Vous préférez l'élan, mais vous vous soumettez à l'ordre. » Et Henri Bordeaux de conclure, « Venez, monsieur, venez nous aider à comprendre ces âmes et à maintenir en nous et autour de nous le sens de la vie intérieure. » Retrouvons Henri Brémond, puisque c'est lui qui aujourd'hui revêt pour nous l'habit vert de l'Académie française. C'est à l'Académie que Brémond devait faire la connaissance de Paul Valéry, avec lequel, rapidement, il noua une profonde amitié, amitié d'ailleurs consolidée par un combat mené en commun à propos de la poésie pure. Le 9 juin 1934, soit 10 ans et demi après la mort de son confrère, Valéry devait prononcer un discours au nom de l'Académie française à l'occasion de la position d'une plaque devant le domicile de l'abbé Brémond, rue Chanoinesse à Paris. Avec esprit, il fait part de ce sentiment qui s'emparait des visiteurs la première fois qu'il rendait visite à l'ancien jésuite. Je ne m'y sentais pas étonné que l'on pût encore y prendre parti pour Fénelon contre Bossuet, s'inquiéter véritablement de controverses qui, pour être éternelles, n'en sont pas moins généralement assez mortes. Puis, esquissant le portrait de son défunt ami, l'auteur du cimetière marin reprenait « Il était prêtre, ayant été jésuite, prêtre d'une foi incontestable, avec l'esprit le plus libre autour de ce point fixe dans ses pensées. » Il était provençal, nourri fortement aux lettres antiques, classique de formation et de goût, mais romantique d'instinct et de tendance. Mais encore, ce provençal avait vécu de longues années en Angleterre, dont il savait la langue et les poètes à fond. Quelques lignes encore, parce qu'elles sont le témoin d'une amitié entre ces deux grands esprits amalgamés. Quand Brémond élut son domicile dans ce repli de l'ancienne cité de Paris, rue Chanoinesse, j'y suis venu assez souvent le visiter, m'entretenir et parfois disputer assez chaudement avec lui. J'y reviens aujourd'hui honorer la mémoire d'un mort, mais d'un mort pour moi plus vivant que bien des vivants. Je l'entends et je le vois. Je montais, je le trouvais là-haut, les mains tendues. Il accourait, parcourant vivement des chambres assez nues, toujours animé de quelque feu intellectuel. Brûlant de quelque idée ou de quelque beau vers qu'il venait de découvrir, ou bien tout enflammé d'une sainte indignation, merveilleusement éclatant entre la bassesse d'une âme contre la platitude d'un livre, la sottise ou le vil calcul de quelqu'un. Homme spirituel autant que d'esprit, Brémond ne manquait pas d'humour. Un jour qu'il recevait la visite de la jeune Marie-Noël, poétesse un peu oubliée aujourd'hui, il l'accueillit de la manière dont parlait Valéry plus haut, puis, de l'air le plus sérieux du monde, il lui fit ce compliment. « Mademoiselle, vous avez du génie, il faut vous y résigner. » La jeune femme ne fut heureusement pas dupe de ce compliment et sut lui donner la plus sensée des réponses, c'est-à-dire un grand éclat de rire. Ses manières de chanoine, cette componction toute jésuite, avait attiré à Brémond de nombreux ennemis, vaste clique d'abord composée d'aigris et de jaloux. L'un d'eux eut un jour cette formule qui devait rencontrer un certain succès. « L'abbé Brémond a tous les défauts des jésuites, sans en avoir les vertus. » La récente réédition de la monumentale histoire littéraire du sentiment religieux en France par les presses de la Renaissance est enfin l'occasion de redécouvrir un homme dont l'œuvre influença durablement des auteurs tels que Julien Green ou Paul Claudel. On trouve d'ailleurs dans le journal de Green les lignes suivantes en date du 3 janvier 1956. Je cite « Continuez la lecture de Brémond. Il cite des textes magnifiques, il exhume des trésors. Il a été pour moi, voici 15 ans, un guide dans la patrie des mystiques et de tous ceux qui croient à l'invisible et qui y croient de telle sorte que leur vie quotidienne en est bouleversée. » Fin de citation. Des générations de lecteurs, c'est vrai, furent éclairées sur les maîtres de la spiritualité française et plus particulièrement par celle du XVIIe siècle. C'est que Brémond a démontré que la spiritualité française, qui court du règne de Louis XIII à celle de Louis XIV, de même qu'elle ne peut être entièrement assimilée à celle de Port-Royal, n'a absolument rien à envier à la spiritualité espagnole du siècle d'or. Livrée à l'origine en volumes successifs, cette histoire du sentiment religieux révèle d'abord que le rôle social ou moral de la religion catholique ne fut jamais que secondaire par rapport à la foi vécue de l'intérieur. Ce qui fascine Brémond, c'est d'abord l'antériorité des êtres humains et leur quête religieuse au-delà de tout catéchisme. Alors que l'expérience janséniste, par ses implications politiques notamment, a longtemps tendu à recouvrir de son austère manteau la pensée religieuse du second XVIIe siècle, Henri Brémond ressuscite, lui, des maîtres à penser alors un peu oubliés, tels que Pierre de Bérulle pour le règne de Louis XIII, ou le prédicateur jésuite Bourdaloue qu'aimait tant Saint-Simon. La démarche originale de celui qu'Henri Bordeaux qualifiait volontiers de sourcier ne tarda pas à valoir à son auteur des difficultés avec l'Église catholique. C'est que la notion même de sentiment religieux et l'approche volontairement littéraire des textes étudiés par Brémond n'étaient pas sans rappeler à sa hiérarchie les expériences menées par Ernest Renan quelques années plus tôt. C'est à Rome d'abord que les critiques furent les plus sévères contre cette histoire littéraire du sentiment religieux. Elle ne devait toutefois pas être mise à l'index. Le seul texte de Brémond qui fut condamné, c'est en fait sa vie de Sainte Chantal. Elle avait choqué les visitandines, ces dernières n'ayant en rien reconnu la vie et l'œuvre de la fondatrice de leur ordre dans le texte de Brémond. La réédition de ce monument, consacré à l'histoire des ouvrages religieux du XVIIe siècle, comble aujourd'hui un manque qui ne pouvait qu'étonner. Elle demeure aussi indéniablement le meilleur des témoignages et des études consacrées à la vie intérieure du catholicisme français.